Bonjour et bienvenue, nous sommes le samedi 31 mars 2007, il est exactement midi dans vos oreilles.
Éphémère est une radio libre, sans pub et indépendante, fondée à Toulouse en 1981. Notre mission, vous faire partager nos passions, nos coups de cœur et ce qui va vraiment faire bouger votre monde.
S'invite dans vos oreilles aujourd'hui avec, pour commencer,
maintenant,
le supplément week-end avec l'actu BD, cinéma, DVD, TV, Graal et Seigneurie.
Et suivi d'eux,
ça c'est du sport, le résultat sportif en direct des vestiaires et de l'infirmerie.
Et ensuite,
à 15h, Zarma Farai, c'est du mix, c'est du reggae. 17h, Big Bang, c'est du rock. 18h, Vie d'ordure, c'est du punk. 19h, Happy Hour, c'est du lounge. 20h, la Cetero Experience, c'est Jésus. Et 21h30, 9 Love, c'est du two-step. Vous écoutez FMR 89,1 MHz, bonjour Thomas.
Salut Xavier.
Bonjour JB. Ah non, excuse-moi, je me suis trompé de micro. Bah ça t'apprendra. Eh oui, JB est de plus en plus souvent en retour. Ma foi, il va falloir lui remettre un rond de serviette et retrouver la bonne piste micro. Ce serait bien si on pouvait avoir à nouveau 5 micros fonctionnels côté invité, ce serait sympa quand même. Aujourd'hui, ça va péter, ça va lourder, tout ça avec la grâce de Dieu, puisque aujourd'hui, nous allons chercher le Saint Graal, l'humour. Voilà, le retour de l'humour franco-français à la Audiard. Alors, à chaque fois, je me trompe de piste. Hein. Un petit coup de religion, de la religion par.
Je sais pas, prendre le K2.
À gagner.
We'll be right back.
Comment ça, un peu agressif de bon matin? Ah, c'est ça, c'est ta copine qui connaît pas cette face de ta personnalité et de ma discographie, c'est ce que tu voulais dire.
De ta discographie, c'est sûr, et puis c'est vrai que j'ai pas tellement l'habitude d'écouter ça à la maison.
Oui, mais encore, moi j'aurais pu passer Sister of Mercy, et ça, elle était même pas née à l'époque.
Ah si, elle était née quand même.
Hein. Ah, la mienne, non.
Ça, tu te débrouilles. Hein.
Bonjour, c'est le supplément week-end aujourd'hui, donc nous avons une interview de Alexandre Astier et Stéphane Dupré. À propos de Kaamelott, bien évidemment.
À propos de la BD, surtout.
À propos de la BD, mais on parle aussi de la série et de plein d'autres choses. Ça, on y viendra évidemment en cours d'émission, puisqu'il y a aussi de la bande dessinée, du cinéma, de la télévision et plein d'autres choses encore à vous dire, à vous causer, à vous en parler. Sinon, à faire un petit errata, ou plutôt une confirmation sur ce que je disais la semaine dernière. Donc JB a pensé à vérifier, comme quoi c'est bien la femme de Frank Miller qui lui a fait des couleurs sur 300.
Tout à fait.
Voilà.
Une certaine Lynn Varley qu'on retrouve créditée au scénario, enfin au film 300 qui est sur nos écrans.
Voilà, et qui a aussi fait des couleurs très flashy du très mangaesque DK2, Dark Knight 2. Une aventure de Batman où si on n'aime pas les flyers de techno début années 90, passez votre chemin, parce que c'est limite de la lisibilité des fois de ce côté-là. Accessoirement, Doctor Strange vient de m'appeler et je l'en remercie pour m'avoir signalé que au Voltigeur, la galerie d'exposition, le Voltigeur, qui est plutôt orienté bande dessinée d'ailleurs, il y aura lieu tout à l'heure, et ben je crois que c'est à 18h, la sortie du 6e numéro de la revue artistique 6M1P, qui est une revue artistique gratuite de très très bonne qualité et que l'on salue bien bas. Et d'ailleurs, on avait présenté un peu leur production à tous ceux que l'on avait rencontrés lors du festival d'Angoulême. Le petit truc carré, tu te sens
souvent. Oui, oui, voilà. Le carré. Il y a beaucoup d'interviewés qui avaient posé en photo avec.
D'ailleurs. Voilà, d'ailleurs, ils avaient beaucoup apprécié.
Des photos que vous ne pouvez pas trouver sur le site de la radio, puisqu'on est négro flemmard, on les a pas mis au format. Donc,
ainsi que l'interview de Benjamin il y a 15 jours. Là, tant qu'on y est, aux programmations à venir du supplément week-end. Sachez donc que la semaine prochaine, c'est un numéro annuel que l'on fait chaque fois le premier week-end d'avril, spécial Japon. L'an dernier, on avait eu en direct Frédéric Boilet et Aurélia Horita. On a régulièrement des auteurs de manga que l'on interview. Et là, cette année, c'est Keiko Ichiguchi, qui est une mangaka qui actuellement vit non pas au Japon, mais en Italie, et qui a sorti un très très bon bouquin qui est traduit en français, qui s'appelle « Pourquoi les Japonais ont les yeux bridés ?» On vous expliquera ça la semaine prochaine. Ainsi que Kaneko Atsushi, qui dessine une BD qui est très proche des fanzines américains graphiques underground des années 70, puisqu'il s'agit de Bambi, un truc gore et arty absolument allumé.
Ah, c'est pas la suite du Disney alors?
Non, ça n'a absolument rien à voir, même si le troisième tome est prévu et va sortir chez IMHO normalement la semaine prochaine. On est synchro, on le fait bien, non? Non,
bon, oui, d'accord. Tout à fait, oui.
D'accord, super.
Alors, sachant que moi je serai pas là, tu feras l'émission tout seul la semaine prochaine.
Ça tombe bien parce qu'on sera chargé au taquet et qu'il y aura plein de mangas, et qu'en plus il va falloir que je prépare un petit truc sur manga prochainement, on en reparlera. Aujourd'hui donc, le supplément week-end vous emmène dans la légende, la vraie, celle d'Arthur. Non, pas le dessin animé de Luc Besson, bande de mauvaises langues. Non, pas le film Lancelot avec un Richard Gere risible, ce qui est après tout à fait normal pour le réalisateur de Y a-t-il un pilote dans l'avion. Mais la geste arthurienne avec ses boutons de rose qui éclosent en accéléré dans le sillage des chevaux sur un fond musical wagnérien. Défendons le royaume de Bretagne des invasions barbares. Retrouvons le Saint Graal pour la gloire du Christ. Faisons-nous cucufier par notre meilleur soldat. Faisons-nous assassiner par notre propre fils. Tout coquet, Philly aurait dit Arthur à Mordred qui venait de le poignarder sur les marches du Sénat. C'est à ces quelques mots qu'on reconnaît les grands hommes d'État. Ou alors César, je ne sais plus. De toute façon, in latinum, in textum, parce que sans les Romains, on ne serait qu'une bande de pécores à patauger dans la bouse, vous apprendrez mieux qu'avec Alain Decaux à notre écoute aujourd'hui. En tout cas, nous avons l'honneur de diffuser tout à l'heure l'interview du digne successeur de Chrétien de Troyes, Trouvert, c'est la traduction de Troubadour en langue du Nord, complet puisque scénariste, musicien et acteur, rencontré avec son enlumineur attitré, Stéphane Dupré, à Angoulême pour la série BD qui sort chez Casterman, donc on a le premier tome et qui est prévu en, si je me souviens bien, c'est en 3 tomes, 3 ou 4.
Oui, il parlait de 3 tomes en BD, oui.
Voilà. Et tout cela pour vous parler des deux types de romans de chevalerie qui existent. Le romantique, vous savez, le chevalier avec son sourire ultra bright, la rose entre les dents, et qui grimpe en haut du château en disant « m'a dulciné ». Ce qui sépare nos deux familles ne nous séparera point. Et le preux, c'est-à-dire celui avec la ceinture de chasteté et qui n'est là que pour l'église. C'est-à-dire que l'église a vu à une époque que le roman de chevalerie, c'était vachement in, vachement tendance. Ils ont mis une équipe de créatifs dessus pour faire, je veux dire, de la propagande d'État, du Vatican bien sûr. Enfin bon, ceci dit, on y reviendra tout à l'heure. En attendant, on va parler plutôt de bande dessinée historique, avec deux bouquins, deux nouvelles séries qui viennent de sortir. Avec la reine, la dernière reine, premier tome d'une histoire complète en deux tomes, de Patrick Weber au scénario et Giancarlo Caracuzzo, le premier tome donc s'appelle Le Cobra du Nil et vient de sortir dans la collection Empreinte chez Dupuis. Nous sommes à une époque où Rome vient d'unifier l'Italie, pacifie la Gaule et se prépare à son destin de plus grand empire qu'ait jamais connu cette planète. Quelques détails sont encore à régler, ça et là, puisque les deux généraux d'armée, César et Pompée, s'affrontent avec les citoyens de Rome et leurs deniers. Pas seulement sur les blancs du Sénat, donc, mais aussi par armée interposée. Bon, ça fait un peu désordre, hein, bon. Aïe, y est planté le cadre géopolitique de l'époque, 80 ans avant qu'un Palestinien trouve rigolo d'aller prêcher dans le désert. Oui, on s'en occupera après. Revenons à la Terre des Dieux. Dans le détail du Nil, Ptolémée XIII règne sur une Égypte qui n'est plus que l'ombre d'elle-même. La glorieuse civilisation de plus de 25 siècles, qui vous contemple en haut de ses pyramides, est dirigée par un grec qui ne parle même pas la langue locale, installé là par un lointain ancêtre du nom d'Alexandre le Grand. Ptolémée vient de chasser du trône sa sœur, sous prétexte qu'elle est ambitieuse, mais surtout vu qu'elle l'a dans le nez, qu'elle aurait d'ailleurs fort beau selon les témoins locaux. Ptolémée donc chasse désespérément sa sœur, histoire de la voir passer de vie à trépas, et surtout avant qu'elle monte une armée pour le renverser. Mais hélas, aucun de ses magiciens ne se montre efficace pour la localiser. Il se voit donc contraint d'appeler Rahotep, un grand liseur de songes qui vit en Haute-Égypte. Mais ce dernier voit plus la déchéance de l'Égypte que l'opportunité d'être dans la cour du roi, et il y trouvera d'ailleurs moultes intrigues. Très bien documenté, très proche historiquement, ça m'a donné envie de relire tout plein d'autres livres, tiens. C'est une très belle aventure en costume. Et à noter que le tome 2 est prévu pour août, donc un dénouement proche. Ça tombe bien, c'est peut-être le roman de l'été. Patrick Weber au scénario, du Giancarlo Caracuzzo au dessin. La dernière reine, le tome 1 sur 2, s'appelle Le Cobra du Nil et cela vient de sortir dans la collection Empreinte chez Dupuis. Au scénario, Lionel Marty au dessin, c'est Le Rêve de Jérusalem, un quadriptyque, puisqu'il s'agit du premier tome sur 4 qui vient d'arriver, qui s'appelle La Milice Sacrée. C'est toujours dans la collection Empreinte chez Dupuis. C'est au 11e siècle que la mode des tours opérateurs s'est implémentée avec la formule croisade. Le principe est simple, un roi ou un seigneur propose à ses ouailles de faire un petit tour en Palestine avec long voyage à pied et sur place différentes activités sportives comme la bataille en plein air, le massacre généralisé, le tourisme du petit rigolo qui s'amusait à prêcher dans le désert un millénaire auparavant. Tiens, le revoit loup. Et j'en passe des meilleurs. Viendez, c'est pour le salut de votre âme et la grandeur de l'église. Herman, c'est un jeune homme qui a un pouvoir, qui lui a été donné par Dieu, c'est vous dire si c'est un don. Celui de guérir les blessures, même très graves, par imposition de ses mains. Certains disent que l'Éternel voulait en faire le nouveau Christ. Liv Noir, et pas Live Noir, non, ça n'a rien à voir, est un mercenaire sanguinaire qui a semé la mort à travers l'Europe. Et il a été touché par la grâce de Dieu et reçu le pouvoir de discerner le bien du mal. Ça, c'est ce que j'appelle un truc pratique. De leur rencontre en sortira une puissance divine. L'élan nécessaire pour aller libérer la terre sainte des infidèles, redonner au tombeau du Christ son lustre. C'est une légende dorée, épique, pleine de miracles, mais surtout de fureur, de sang, de feu. On massacre, on tue, on fait souffrir uniquement pour la gloire de Dieu. Donc la véracité historique de ce côté-là est respectée si on accepte évidemment les éléments fantastiques.
Le trait est nerveux, le dessin brutal, le trait est nerveux. Le scénario sert un dessin brutal à souhait. Ce n'est pas une BD pour les enfants ni pour les cubénis, mais la leçon pourrait bien leur servir. On ne joue pas aveuglément avec les concepts abstraits comme celui de Dieu. Philippe Thiroux au scénario, Lionel Marty au dessin. Le rêve de Jérusalem, le premier tome sur 4 s'appelle La Mise Sacrée, c'est dans la collection Empreinte chez Dupuis. Midi et 16 minutes sur l'horloge subatomique de la radio, exactement. C'est le supplément week-end sur Radio FMR. Et on va introduire un peu les personnes que nous avons rencontrées.
Oui, introduisons les personnes. Donc, il s'agit d'Alexandre Astier, donc le grand ordonnateur de la série Kaamelott, acteur principal, scénariste, réalisateur également à 16 heures, compositeur de la musique. Il dirige les comédiens, il regarde leur, enfin, il fait tout.
Il supervise le montage, il supervise aussi les produits dérivés, dont celui dont on va parler.
Il scénarise la bande dessinée, il prépare quelques films aussi pour suivre au-delà de la saison 7. C'est énorme ce qu'il fait. Et on a aussi Steven Dupré qui était le dessinateur. Alors excuse-moi Xavier,
je t'avais dit
enchaîne.
Couper les sonores. Voilà, donc Steven Dupré qui est en fait le dessinateur qui en plus est hollandais. Donc vous étonnez pas de son accent.
Hollandais ou flamand?
C'est la même chose.
Oui, mais bon, il peut être belge ou hollandais.
Bah non, la Belgique n'existe plus, les Flamands ont fait sécession.
Ah oui, c'est vrai.
Donc, tu devrais le couper ton téléphone, je t'avais dit de le mettre en mode silencieux quand on est à l'antenne. Non mais c'est pas vrai. Ah, enfin arrive du sport.
Nous sommes
pour
dans
me sauver
le...
de notre
nous...
patouchage que dans lequel
nous
on est.
Nous sommes dans l'Europe médiévale, il n'y a pas de téléphone.
Voilà. Donc c'est il y a d'abord un court-métrage qui s'appelle Dies Irae.
Oui.
Ensuite, il y a eu des pilotes de série qui duraient 7 minutes, qui est le format du 6 minutes de M6, hein, on l'a chronométré, sachant que le quand on passe le soir à 20h40 à peu près, justement Kaamelott passe les 6 minutes régionaux qui durent 7 minutes mais surtout qui durent à l'image près, donc la durée de la série est très fortement concentrée là-dedans, sauf que en fait quand on regarde bien sur M6 il y a 2 épisodes et pas un seul, ils trouvaient que 7 minutes ça faisait trop long, donc ils ont dit on ramasse tout ça en 2 épisodes de 3 minutes 30 sauf que ça va repasser à 7 minutes pour les 2 dernières saisons et donc il y a cet aspect-là, je veux dire, assez technique de la série, mais d'un autre côté, il y a aussi l'aspect étonnant. Sur une chaîne très grand public commercial, arriver à parler, ben, je vais dire, de manière assez sauvage de l'histoire, de références qui sont quand même à la fois historiques et légendaires, donc je vais dire quand même assez culturelles,
oui,
voire cultureuses. C'est
oui.
Quand même assez lourd, hein. Plus après, il y a des moments où c'est pas de la comédie pure, hein. Ça tourne des fois au règlement de compte sur les histoires de coucherie entre le roi Arthur, entre son ex, entre ses conquêtes et ses chevaliers. Ça y va sec, hein. Des fois l'ambiance est très lourde et pourtant ça fait une audience absolument monstrueuse. Le DVD, les coffrets DVD se sont très bien vendus, font régulièrement le top. Et actuellement, on en est depuis le lancement de la série en janvier 2005, on en est à près de 4 saisons.
On en est à la 4ème saison.
À la 4ème, ouais, oui, c'est ça.
Ce qui est quand même énorme. Le rythme est vraiment accéléré au niveau de production. C'est ça qui est impressionnant. C'est cette performance continue.
Oui, il me semble qu'ils avaient commencé les tournages à Lyon, qu'ils sont partis à Paris, qu'ils sont revenus ensuite. Puisqu'il est lyonnais d'origine, Astier. Voilà.
Donc, c'est là où on se dit waouh, le monsieur, il a pourtant le temps de faire une bande dessinée et de préparer les films derrière. Ah, ça fait royalement peur. L'interview a été enregistrée avec la complicité d'Arnaud Claes pour Actua BD, le site 1001 scénaristes. Actua BD dans lequel vous retrouverez la transcription de l'interview. Bon, elle est déjà en ligne d'ailleurs.
Oui.
Voilà, on est un peu en avance pour une fois. Et donc elle a été enregistrée samedi 27 janvier à Angoulême sur le stand Casterman. On ne pouvait pas faire autrement, on est désolé, mais voilà.
Il faut dire que c'était un samedi après-midi et que il y a le
petit
haut-parleur.
Joël Noël est demandé par ses parents près du stand ou dédicace.
Chevalier Laspalès ont annoncé en dédicace sur le stand machin.
Voilà, où il n'y avait personne. Et de l'autre côté, bah voilà, c'était la folie furieuse avec Samantha. Et ben justement, ils étaient là, Alexandre Astier et Stéphane Dupré. On lance l'interview.
Alors, la première question, c'est une question générale. Comment est-ce que est né ce projet d'adaptation de la série en bande dessinée?
Alors, comment il est né? Il est né, il a eu un petit raté au début. C'est que quand la proposition était simplement de faire une BD planche à planche écrite par des auteurs tiers selon une pseudo-bible de Kaamelott, le tout sous une édition, je ne sais pas laquelle d'ailleurs, et avec un dessin plus cartoon que ça, c'est-à-dire vraiment le produit dérivé, j'ai refusé. Ça a pris quelques mois. Et je suis revenu à la charge avec un projet, avec une envie de faire une vraie BD, donc une histoire entière, avec un script original du même auteur que la série, avec un dessinateur réaliste et reconnu pour son talent, et pas forcément cartoon, et une édition qui fasse rêver un peu. En tout cas, moi, ça me faisait rêver, moi, c'est déjà ça. Donc voilà, il a eu un petit... Il a sauté une marche, et puis il est devenu ce qu'il est là... Dans un second temps.
Donc vous êtes fan de bande dessinée, qu'est-ce que vous aimez?
Moi je suis fan de l'ultra classique, puisque les bandes dessinées c'est celle de mon père en fait, mais quand il était gamin, donc c'est les ultra classiques qu'on a nous, les Astérix, les scripts de Goscinny, tout ça quoi. Donc en fait pour moi c'est une relation assez affective, la BD, l'objet BD est très lié à la famille, à la... J'avais envie d'une bande dessinée qui ait les mêmes relations affectives que j'avais moi dans la BD, c'est-à-dire déclencher un truc d'aventure, même si c'est une comédie, de partir dans une épopée.
Stéphane Dupré, comment êtes-vous arrivé sur ce projet alors?
Ben, c'était l'éditeur Arnaud Delacroix qui m'a demandé de faire quelques planches d'essai. Et puis c'est Alexandre qui a enfin décidé qui va dessiner son BD.
Vous avez gagné un sort de concours en fait.
Un sort, oui. Mais je ne savais pas les contestants, les autres.
Pour la fabrication des personnages, pour l'élaboration du style des personnages, vous avez regardé en série tous les épisodes, ou alors vous avez travaillé uniquement d'après photo?
Tout au début, pour les planches d'essai, j'ai travaillé sur les photos de la site de Kaamelott. Et j'ai reçu deux ou trois épisodes en CD. Et après, j'ai reçu toute la série en DVD, donc j'ai tout vu qui est paru en DVD parce que...
Alors, en fait, vous avez parlé de Goscinny tout à l'heure. Ce midi, on a inauguré une rue au nom de René Goscinny à Angoulême, précisément. Donc, j'avais pensé à vous demander effectivement quel rapport vous aviez à Goscinny. Et vous parliez tout à l'heure de ces bandes dessinées. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler, ce que cet auteur représente pour vous?
En fait, la difficulté quand on est auteur, pas de bande dessinée. Enfin, je veux dire, je pense qu'il y a une part chez les auteurs qui est commune à tous les auteurs, quel que soit le format auquel ils s'attaquent. Comment raconter une histoire, les actes, la structure narrative, quoi, je veux dire, c'est commun au format. Et puis après, il y a la particularité du format. Et comme pour moi, Goscinny est celui qui mélange le mieux les deux, c'est-à-dire que si on raconte l'histoire simplement narrée comme ça, elle est toujours bien foutue. Et en plus, elle a une forme de découpage qui est exceptionnellement bien foutue pour la BD. Donc... Je pense que raconter des histoires, c'est la part que je prétends savoir faire. Le découpage spécifique à la BD, c'est celui que je suis allé chercher chez Goscinny. Donc, je trouve que c'est un des meilleurs exemples de... Voilà, et puis surtout, il écrit de la comédie. La comédie pour tous, c'est le plus dur à faire, en fait.
Par rapport aux autres adaptations de séries télé en bande dessinée, où votre collaboration entre tous les deux, vous vouliez vous différencier?
Bah, je crois que dans la première réponse, je vous ai donné à peu près le tout, c'est-à-dire essayer de ne pas faire produit dérivé, en sens que j'imagine que pour moi, un produit dérivé, c'est quand les gens qui ont créé le produit premier ne sont pas sur le produit dérivé. Quand on le laisse et quand on le délègue complètement, ça peut être très bien fait, mais à mon avis, ça manque de cohérence, quoi. Donc déjà, le fait d'écrire le script, c'est le premier truc qui essaye de me différencier. Et après... Je pense que Steven n'appartient pas forcément au staff de dessinateurs auxquels on fait appel d'habitude pour dessiner des dérivés de séries télé humoristiques. C'est un choix inattendu dans ce truc-là, et en fait on essaye d'être inattendu sur ce truc-là parce qu'on veut que la BD ait une vie propre, on veut qu'elle existe pour ceux qui ne connaissent pas du tout la série aussi.
Steven, vous avez regardé des adaptations de BD comme celle des Experts ou celle de Samantha ou d'autres?
Non, je connais rien des trucs français, mais le phénomène existe aussi en Flandre, donc je le connais déjà. Et c'est à peu près la même chose.
Et en fait, ce qui a surpris pas mal de gens, c'est que justement, que vous ne fassiez pas appel à un dessinateur cartoon. Et en fait, c'est, d'après ce qu'on comprend, c'est surtout pour miser sur l'aventure avant tout, alors.
Kaamelott, le principe, que ce soit à la télé ou n'importe où, par exemple à la télé, si on coupe le son, il faut que ça n'ait pas l'air d'une comédie. Si le son est coupé, on regarde, à moins de tomber sur des scènes très spécifiques où c'est du slapstick. Mais sinon, normalement, ça doit être traité comme Le Seigneur des Anneaux. C'est quand on met le son qu'on comprend que ça ne marche pas. La bande dessinée, c'est pareil. Quand on la voit de dehors, de loin, à la FNAC, ça doit faire BD d'aventure. C'est le principe. C'est quand on ouvre la BD et qu'on suit les gens, qu'on comprend qu'en fait, ce ne sont pas vraiment des héros, mais des gens pour qui la tâche arthurienne et la tâche de quête du Graal est trop lourde pour leurs épaules, quoi.
La caractérisation des personnages, moi ce que je voudrais savoir, c'est aussi bien dans la série télé que dans la bande dessinée, qu'est-ce qui tient de la véracité historique, qu'est-ce qui tient de la légende dorée et qu'est-ce qui tient de votre propre entourage?
C'est compliqué, la légende arthurienne est à 90% littéraire, c'est-à-dire que la vérité historique, a priori, ou archéologique, il n'y en a pas. Il y a de vagues tombeaux où on se dispute la véritable identité du contenu. Il y a un roi Arthur en Irlande, il y en a un au Pays de Galles, il y en a un... Enfin bref. Donc la vérité sur Arthur n'existe pas. La vérité littéraire, c'est Geoffroy de Monmouth au XIIIe siècle. Il y a pas mal de choses qui sont reprises de là. Le triangle amoureux, Lancelot, Guenièvre, Arthur, Perceval, etc. Mais c'est librement adapté. Et la véracité des personnages, donc des acteurs, vous voulez dire c'est écrit pour les comédiens et pas pour les personnages.
Ouais. C'est eux qui ont influencé vraiment la teneur de chacun.
Mais je crois qu'en fait, pour moi, c'est la façon que j'ai d'écrire, pas forcément pour Kaamelott, pour tout ce que j'ai fait avant, théâtre, radio, tout ça. J'écris pour des comédiens, pas pour des personnages. Ouais.
Oui, vous parliez tout à l'heure de la façon dont vous avez conçu la bande dessinée par rapport au projet, enfin par rapport à la série d'origine. Il y a aussi 3 longs métrages, je crois, qui sont en préparation. Donc, est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez faire en bande dessinée que vous pouvez pas faire dans les autres médias, ou est-ce que vous les faites différemment? Comment est-ce que vous avez adapté votre technique d'écriture?
La difficulté sur la bande dessinée, c'était de pas être chronologique avec la série. Là où ça serait devenu extrêmement bordélique, c'est s'il fallait qu'une BD soit vue après tel DVD, mais avant l'autre, etc. Puisque dans la série, il se passe des choses feuilletonnantes comme le départ de Lancelot, une guerre qui s'approche, des clans séparatistes. Je ne peux pas demander au public de la BD, surtout si je l'avais autonome, de suivre tout ça, quoi. Donc en fait, les albums de bande dessinée se passent pendant la saison 1. Et en fait, ça reste comme ça. C'est avant la série, en fait. C'est avant le livre 1. Donc, dans l'écriture, ce qui change, c'est que la série et les films sont chronologiques. La série 7, c'est la dernière à la télé. L'histoire s'arrête sur un point fort. Elle se prolonge dans le cinéma. Donc, en fait, le média audiovisuel, il sert à raconter l'histoire qui se déroule. Et les bandes dessinées sont des quêtes autonomes antérieures à cette histoire. Voilà.
Plus exactement, la série télé, ça permet de financer le projet. La bande dessinée, ça permet de voir qu'il y a des fans qui sont prêts à accrocher, et le cinéma, c'est pour être sûr, après, de vraiment bien ratisser.
Vous devriez bosser chez M6. Non, je déconne. Non, c'est beaucoup plus naïf que ça. J'ai envie de raconter une histoire, quoi. Voilà. D'ailleurs, en ce sens-là, c'est pas la façon la plus économiquement probable de faire les choses. On me donne des conseils marketing qui s'éloignent beaucoup de ça. Que je suis pas.
Vous parliez tout à l'heure de la contribution des acteurs pour les scénarios, puisqu'ils enrichissaient les rôles et tout. Là, vous êtes tout seul pour la BD. Est-ce que vous avez demandé aux acteurs qui ne sont pas physiquement dans la BD de donner aussi leur contribution?
Non, parce que je parlais de contribution, c'est ce que m'inspire leur personnalité de comédien. Mais ils écrivent jamais de réplique, ils écrivent pas de texte, donc c'est ça. Je les fais parler dans la BD comme pas comme dans la série, parce que c'est que ce soit plus court, sinon ça ferait des bulles assez indigestes. Mais on a, c'est pas un travail collectif. C'est une manière que j'ai de les connaître, pour certains de très près et pour certains de... Comme là, il y a Alain Chabat qui vient de venir, je le connais de ce que j'en connais, je ne le connaissais pas avant. Mais c'est l'acteur qui m'intéresse. J'ai pas un personnage qui doit répondre à des critères et je mets quelqu'un dedans. C'est plutôt... voilà.
Et la contribution de Steven, puisqu'il est arrivé assez tard sur, par rapport aux deux saisons précédentes et tout, est-ce qu'il a apporté ses idées, comment ça s'est passé?
Ben non, c'est Alexandre le scénariste.
Non, je peux le lancer là-dessus. Effectivement, c'est difficile de ne pas s'inspirer de l'environnement quand il existe. Moi, j'ai pas de Bible à fournir à Steven. Je vais pas lui mettre un document tout pourri avec des portraits. Puis lui, il est méchant, il est comme ça. La meilleure Bible qui existe, c'est la série telle qu'elle existe. Donc les personnages qui sont sur la bande dessinée, c'est ce qu'il en a tiré de la série. Mais je trouve que c'est une interprétation quand même. Il a notamment pas mal forci certains caractères qui me le reprochent à fois sur le plateau. Mais non, c'est sa vision, mais c'est vrai que ça part de ça.
Effectivement, le fait de devoir vous approprier un univers qui existe visuellement, les personnages existent visuellement, l'univers existe. Est-ce que vous avez trouvé votre liberté quand même là-dedans?
Bah oui. Non, au contraire, Alexandre, moi je dessine plutôt les personnages que les comédiens. Ils sont, je pense, assez reconnaissables. Mais je me concentre surtout sur leurs personnages.
Et au niveau de l'univers visuel, comment est-ce que vous avez travaillé là-dessus? Je pense à une chose, c'est que la série télé est très, est dans des ambiances assez sombres en luminosité. C'est pas vraiment le cas de la bande dessinée. Comment est-ce que vous avez transposé l'univers visuel?
Si les décors et tout ça existent déjà en télé, je les ai redessinés, mais tout le reste j'ai inventé en discussion avec Alexandre pour l'extérieur du château et tout ça.
Oui, sachant que comme la bande dessinée ne suggère pas une économie de moyens en termes de décors. La première chose que j'ai envie de faire, c'est de les faire sortir loin avec des monstres, des montagnes, des machins, des choses qui coûtent un prix inabordable en le tournant. Et pas là, donc effectivement, Steven a dû, par exemple pour les morts-vivants, qui sont proprement des monstres heroic fantasy que moi je me permets pas de tourner en réel, pour toute cette montagne, pour l'espèce de ranch que le méchant a là-haut, tout ça, c'est des choses qui sont ouvertes à la nouveauté, à la création. C'est pas... Et même Kaamelott dans son ensemble, je le montre jamais dans le film, le château lui-même. Et comme je veux pas que ce soit un château médiéval, mais plutôt un château de la fin de l'Empire romain, c'est avec Steven que j'ai pu voir Kaamelott pour la première fois. Avant, je ne la tournais pas. Et là, ça m'a permis de voir ce que c'était que ce château qui est encore un peu sur un camp romain, un peu plus sur un... Voilà, c'est la première fois que je le vois en ensemble, quoi.
Dans la série télévisée, il y a un arrière-plan qui est assez constant sur le combat entre le progressisme et un certain obscurantisme. Donc il y a toujours un fond signifiant, en fait, même si on reste sur des scénettes comiques. Dans la bande dessinée, on est très focalisé sur l'action et sur l'humour. Est-ce que c'est quelque chose qui va rester comme ça sur la bande dessinée ou la bande dessinée va reprendre les mêmes thématiques?
Là, la difficulté, c'est qu'effectivement, le scénario de bande dessinée, comme c'est un nouveau jouet pour moi, j'ai voulu aller vers ce qui me faisait envie tout de suite. Et c'était de l'extérieur, c'était de l'action, c'était des méchants. Et c'était une façon détournée, puisque ce sont des anti-héros, de gagner la partie. Donc par façon détournée, la marmotte géante à la fin, etc. C'est pas vraiment eux qui gagnent, quoi. C'est détourné. Mais c'était une envie de grande épopée. C'est très difficile d'adapter ce dont vous parlez qui est de l'ordre de discussions intimes dans des lieux enfermés, etc. Je veux pas faire une BD bavarde. C'est aussi le monde de l'action aussi. Le fait d'avoir fait ça, peut-être que le volume 2 sera peut-être plus sur les gens, peut-être plus en montage croisé avec une épopée, mais peut-être effectivement. Mais là, c'est le, c'est comme quand vous achetez une boîte de Lego, quoi. Vous montez d'abord le truc qui a marqué sur le papier avec les trucs, et puis dans un second temps, vous démontez les briques, et puis vous pouvez faire vos trucs à vous. Mais ce, là, c'est la BD pour moi de la, du débutant, quoi. Donc il y a des trucs que je pouvais pas faire ailleurs que j'ai fait là.
Les scénarios des prochaines BD sont déjà en cours d'écriture. Vous avez déjà commencé à en parler avec Steven. Et deuxième question, comme on a eu affaire aux zombies et aux monstres dans le premier tome, il va peut-être y avoir des armées romaines dans le deuxième. Qu'est-ce qu'il va y avoir?
Le deuxième est en cours de, en tout cas dans la structure, est en cours de voilà, on bosse planche à planche, on s'envoie des choses, on en parle. Et non, le troisième pas du tout. C'est vraiment un truc qui, pour moi, en écriture, qui est partagé avec l'autre écriture de la série et tout ça. C'est-à-dire que je rentre dans un processus où toutes les semaines, je fais avancer les planches et tout ça. Je reçois les croquis. On rentre dans un mode où on fabrique l'album. Mais c'est naturel. J'ai envie de changement. J'ai pas envie qu'il fasse froid dans la BD d'après, quoi, par exemple. J'ai envie que... Voilà, mais je sais pas plus que ça.
Alexandre Assier, merci beaucoup.
Mais merci à vous.
Stéphane Dupré, merci beaucoup.
Et avec plaisir.
Voilà, une interview en collaboration avec Arnaud Claes du site 1001 Scénaristes, et donc qui a déjà été mise en ligne sur Actua BD. On va continuer toujours sur le thème de Kaamelott avec plein d'autres informations juste après, parce que là il y a Régipub qui dit ça fait 7 minutes de débordement, c'est trop. D'accord, ok, promis, juré, on revient après les pubs.
Wow, John, le 3 avril au Havana, c'est une soirée rose rock'n'roll. Rose Tattoo. Les Australiens, le 3 avril au Havana. Angry Anderson. Mad Max 3, mais qui sera le Rose Survivor le 3 avril au Havana Café? Oh my god! Oh my god!
Oh my god!
Method Man, le 4 avril au Havana Café. Cashwood, everything around me. Une putain d'autorité dans la surface de réparation, mec. Microphone checker, swinging sword lecture, closing down the sector, supreme neck protector, better want him kid, Mr. Mepsa, falling pop. Le 4 avril au Havana Café, c'est le plus technique du Wu-Tang. Any wanna be hard, be easy, it's all in together, going all out together, it don't take much to please me. Still homes, I'm never satisfied like the stones, we don't get don't write and see them selling crossbones, protecting what I'm writing, don't clash with the titan, who blast with a license, to kill rap recitants, come on, in the zone with your nigga from the group home, to cow, fuck your lifestyle.
Salut, c'est Laetitia. Tu veux discuter avec moi? Appelle-moi maintenant. Oh. Appelle-moi maintenant.
Oui.
Appelle-moi maintenant.
Oh.
Appelle-moi maintenant.
Oui.
Appelle-moi maintenant.
Oh.
Je t'attends.
Oui.
Je me souviens que tout en promettant tes
attentions.
Mais c'était quoi ça?
Je sais pas, non, mais c'était comme ça pour le fun.
D'accord.
Mais je crois qu'on a encore oublié de mettre le numéro de téléphone. C'est dommage pour la dernière prod qu'on a faite en partant de la boîte. Ah, c'est idiot, tiens.
Donc, on continue sur Kaamelott. Et si on parlait un petit peu de la bande dessinée, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont fans de la série, qui connaissent, mais la bande dessinée, il y a peut-être moins de chances. Moi, ce que j'ai, c'est la version. Donc, c'est édité chez Casterman et c'est la version collector, c'est-à-dire.
Waouh, c'est classe, hein.
En noir et blanc,
oui,
voilà.
Elle est
ça brille.
Waouh.
D'ailleurs, c'est du noir et blanc.
Et à la fin, tu vois, les croquis, les crowbars, les interviews.
Le making-of, les versions commentées, tout le reste. Bref, c'est du double DVD, puisque c'est le double du volume de l'édition normale, qui évidemment est en couleur. Elle a un
Alors ceux qui sont pas sensibles à ton humour, en fait, c'est pas un DVD, hein, c'est un DVD, voilà. Donc là, la BD, comme il a été dit dans l'interview, donc c'est scénarisé par Alexandre Astier et dessiné par Steven Dupré. Et ça raconte grosso modo, donc Astier a précisé que ça se passait avant la saison 1 à peu près, c'est une préquelle. Et donc ça raconte toute l'équipe de bracassés du château qui doivent lutter contre une armée de zombies en fait.
Si vous vous souvenez de ce passage dans Sacré Graal où ils arrivent et ils s'extasient tous devant Camelot et puis finalement ils passent leur chemin, eh ben on comprend enfin pourquoi les chevaliers de Camelot n'ont pas une réputation de sérieux, parce que pour une quête, elle est mal partie, celle-là.
Dans la quête, déjà, ça commence mal, et puis en plus, ils y vont, il faut buter les zombies, parce qu'on va pas se laisser emmerder par des crétins qui viennent nous un par un. Et donc, c'est une suite de sketch. Bon, alors, c'est le même humour que la série, c'est ça. Enfin, les textes, ils font mouche, t'as le découpage qui est vachement bien et tout.
D'ailleurs, on retrouve énormément les personnages de la série, le dessin est super réaliste. Donc ça donne encore plus d'impact au dialogue.
Oui, ça c'est ce que voulait l'équipe de dessinateurs et scénaristes. Moi, pour ma part, j'ai un petit bémol en fait. On comprend vraiment pourquoi ils ont choisi un dessin réaliste, parce que justement, Astier voulait garder une épaisseur un peu grandiloquente dans la série. Il expliquait que si on coupe le son, il faut que ça fasse Seigneur des Anneaux. Bon, là, on voit que quand même c'est un dessin un peu caricatural, mais pas trop. Mais par contre, ce qui pêche, c'est que le dessin qui n'est pas caricatural et en quelque sorte réaliste, ça neutralise un petit peu quand même le comique des situations. Et tu vois, les mecs, ils ont un peu peur. Quand ils font des blagues ou quand ils s'adressent à des bras cassés, ça fonctionne pas aussi bien que dans la série. Alors, surtout qu'ils ont quand même des bouilles qui nécessitaient quand même des caricatures. C'était très rare de les rater, quoi. Mais bon, là, c'est vrai que le comique, moi, je dirais que c'est un peu désamorcé par le dessin. Mais même si le dessin est nickel, y a pas de souci de ce côté-là. Après, pour l'humour, effectivement, si on a ri à la série, on va rire à la BD. Y a notamment, sans trop spoiler la BD, donc évidemment c'est une armée de zombies, et il y a le chef des zombies qui apprend à un moment donné que Arthur, tu ne le sais pas encore, mais tu vas bientôt être attaqué. Et Arthur lui répond ça fait quelques temps que vous nous envoyez des zombies déjà, comment ça? Alors il y a le bras droit du méchant qui dit c'est moi qui les ai envoyés, on en avait tellement, mais ça sert à rien, ils savent à peine marcher, si vous les envoyez pas en masse ça sert à rien.
Bref, on se rend compte que les méchants sont aussi manches.
Oui, aussi manches que les anti-héros. Ouais.
Voilà, c'est-à-dire que tout simplement, Arthur est très compétent, mais il est entouré de manches. Et le méchant, il est très compétent, mais il est entouré de manches. Et l'ennui, c'est qu'ils ne savent pas gérer cette équipe.
Sauf
de manches.
Sauf que l'un, il a Excalibur, et l'autre, il a des pouvoirs. Voilà. Et donc, c'est épique. Il y a de la neige, il y a des décors, il y a des armées de zombies partout.
Il y a des monstres. Il y a vraiment ce qu'il faut. C'est vraiment, on retrouve le côté chevaleresque, épique et tout ça.
Tout à fait. Ouais. Et donc là il y a comme on l'a dit tout à l'heure, deux éditions. Il y a l'édition normale en couleur. Et l'édition en noir et blanc où effectivement on disait tout à l'heure on retrouve la genèse, les interviews des deux acteurs de la BD, des crowbars, tout ça, les croquis préparatoires qui est assez intéressant. Et voilà. Donc un bon prolongement, on peut dire, de la série qui échappe un peu aux BD traditionnelles inspirées des séries comme les Parker ou les L5, Star Academy, voilà.
Excusez-nous, c'est nerveux.
Relance pas les Parker, on s'est déjà énervé avec l'attaché de presse là-dessus. D'ailleurs, c'est M6 là aussi derrière. Sauf que là, c'est réussi. Voilà, il faut le dire.
Alors, la question de base que j'ai envie de te poser, c'est pour quelqu'un qui regarde régulièrement la série, qui aime bien la série à la télé, qu'est-ce que tu conseilles d'avoir comme bouquin? Tu conseilles d'avoir la totale, c'est-à-dire le normal plus le collector, ou le normal suffit?
Si vous êtes juste fan de la série,
ouais, comme ça, quoi,
comme genre, ça des personnages, il vaut mieux avoir le normal.
Ouais. Et
par contre, si vous intéressez
c'est
exactement pareil que les consommateurs de DVD. Si vous aimez bien payer un peu plus cher pour avoir un objet un peu plus classieux et découvrir les à côté, il vaut mieux prendre la collector, ça c'est clair.
Ça c'est clair. C'est... l'image était évidente là-dessus, de ce côté-là.
Surtout que pour avoir vu un peu la collector en noir et blanc et la normale en couleur, les deux au niveau graphique ça va, les deux se valent. Il n'y a pas une.
Oui, parce que la colorisation est relativement simple.
Oui,
d'ailleurs.
Oui, ça va.
Voilà, donc en fait c'est vraiment le trait à l'encre qui rapporte énormément. Et Stéphane Dupré de ce côté-là est très 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 bon dessinateur, et metteur en scène là-dessus. Voilà, classieux. Accessoirement, si vous voulez un peu vous renseigner sur le mythe du roi Arthur, de Camelot et tout ça, il y a bien évidemment à lire Chrétien de Troyes, en vieux François dans le texte. Il y a l'œuvre de Marion Zimmer Bradley qui commence par Les Brumes d'Avalon, suivie par Les Dames du Lac, etc. Il y a 6 tomes en tout et pour tout qui sont sortis, où les premiers rôles de l'histoire en fait sont plus féminins, et surtout on voit l'arrivée de la chrétienté, puisque Guenièvre est en fait une espèce de cheval de Troie pour amener la religion chrétienne dans la cour du roi Arthur, qui est plutôt je vais dire druidique et tout le reste. C'est très intéressant, il y a à la fois de l'intrigue politique, culturelle, il y a à la fois de la magie, c'est très bien écrit. Marion Zimmer Bradley a une plume absolument magnifique, et moi je me suis régalé à le lire, hein. J'avais dévoré les tomes qui étaient sortis à l'époque, et c'est vraiment de très haute qualité. Je vois JB dubitatif.
Non, il a pas aimé. Je connais que de nom, je sais que c'est une très vieille.
D'accord.
J'aurais un truc à dire, moi, puisqu'on est avant tout une émission faite par des geeks pour des geeks, hein, on va pas se cacher. On va passer sous silence, bon, de toute façon, les adaptations du mythe arthurien comme Excalibur, bon, c'est pas la peine d'en parler parce que c'est tellement connu et les gens se porteront d'eux-mêmes naturellement là-dessus. C'est juste pour préciser que Mamoru Oshii.
Je suis pas trop d'accord, parce que c'est vrai que nous, on est un peu plus âgés que ceux qui ont 20 ans, par exemple, et eux ne connaissent pas automatiquement le Excalibur. Ou le Monty Python, quoi.
Non, mais laisse tomber. Non, ces mecs-là, quand ils regardent Kaamelott, c'est juste parce qu'après, il y a la nouvelle star. Donc, voilà.
Non, c'est juste pour dire que si on commence à faire l'étalage de toutes les adaptations au cinéma, on n'en a pas fini. Et par contre, oui, je m'adresse au geek. Il y a Mamoru Oshii qui a fait, on peut dire, sa propre interprétation d'Avalon dans son film Avalon, justement. Tourné en polonais, un film sur les jeux vidéo avec en toile de fond le mythe d'Avalon et du mythe arthurien avec la fée Morgane, tout ça. Donc c'est quand même une bonne référence à rappeler. Puis évidemment, il y a Excalibur de John Boorman, Sacré Graal, Monty Python, tout ça.
Voilà, moi je tiens à terminer sur une bande dessinée. Je tiens absolument à la placer. Si vous avez aimé Kaamelott, ça peut vous intéresser. Mais attention, c'est pas d'humour et c'est relativement sérieux. C'est David Chauvel et Jérôme Le Reculé, et plus Simon aux couleurs, j'ai oublié de le noter. Ce sont trois auteurs qui sont très connus chez Delcourt. Ils font notamment une série sur la mafia. D'ailleurs, on aura bientôt en interview Jérôme Le Reculé là-dessus. Ils ont un graphisme qui est très particulier, très complet. Ils nous avaient étonné avec Nuit Noire. Et ben, à côté de cela, ils ont fait une série en 9 tomes qui est terminée, qui s'appelle Arthur. C'est dans la collection Conquistador chez Delcourt. Ça se passe au 6e siècle après Jésus-Christ. L'île de Grande-Bretagne se libère à peine du joug de Rome. La religion chrétienne n'a pas encore vraiment mis les pieds. Les druides sont tout puissants, mais surtout les Pictes et les Lohégriens menacent les Brites. Peut-être la meilleure adaptation trouvable de la légende arthurienne, tout simplement parce qu'elle est basée sur la légende originale. Point de Graal, c'est une invention. J'ai parlé tout à l'heure de la reprise par l'église, légende dorée et tout ça, et on fait un petit peu de propagande. Ben oui, c'est venu bien après. Les noms sont en celtique. Si je vous dis Gwenwifar, Gwarchemé, Myrdrin, sans oublier l'épée Calowitch, eh ben on est un peu perdu quand on commence à lire la BD, mais en fait on s'y fait très vite. Au contraire, c'est très agréable parce que du coup on oublie tout ce que l'on connaissait auparavant, on repart à zéro, c'est un bonheur de ce côté-là. Et surtout, eh ben il y a l'incroyable violence des personnages qui est bien souvent gratuite. Mais aussi des gestes secondaires, les quêtes amoureuses comme celle de Tristan et Iseut, qui faisait partie en fait au départ de la légende arthurienne et qui a été rattaché, qui en a été détaché, c'est-à-dire que c'est un spin-off qui a réussi à côté, voilà. Graphiquement, c'est une série qui est très chiadée. C'est impressionnant de graphisme, sur le graphisme, le dessin tourne parfois au style des grandes tapisseries pour les flashbacks. À la lecture, on perd ses repères justement par les noms celtiques, mais surtout on se prend une claque quand on découvre qu'on connaît très mal la légende du roi Arthur. Elle a été malmenée, transformée en outil de propagande par l'église, alors qu'Arthur n'a ou n'aurait probablement jamais été chrétien. En tout cas, absolument pas le chrétien tel qu'on l'a décrit. C'est une série qui est en 9 tomes. Il s'agit de trois histoires principales en 3 tomes. Il y a Myrdhinn le Fou, Merlin, bien évidemment. Le tome 2, Arthur le Combattant. Le tome 3, Gwalchmai le Héros. Je dirais que c'est l'abruti de base dans la série qui va tout le temps se pochetronner dans la taverne.
C'est il y a Caradoc et Perceval.
D'accord. C'est Perceval.
Ok.
Voilà. C'est Caradoc. Je sais plus. Il y a que lui chez Owen qui sont les parents de Tristan et Iseult. Le tome 5, c'est Tristan et Iseult qui sont justement la partie point commune, je vais dire, de ce tome 5, de cette seconde série. Et le tome 6, Geraint et Enid. Ça, je vous laisserai découvrir. Et ensuite, on repart sur l'histoire d'Arthur avec Peredur le naïf. Comme quoi, il l'a bien caricaturé quand même dans la série Alexandre Astier. Le tome 8, c'est Gwenifar la guerrière.
Oui, Guenièvre.
Voilà, exactement. Et le tome 9, Merdra le traître.
Mordred.
Voilà. Donc c'est David Chauvel et Jérôme le Reculé. C'est une série en 9 tomes qui s'appelle Arthur dans la collection Conquistador chez Delcourt. On les trouve d'ailleurs en coffret intégral, très bel objet. Ça vaut le coup parce que justement c'est vraiment magnifique et c'est bien foutu. Voilà. Je crois que j'ai rien de plus à dire.
Je crois qu'on a fait le tour.
D'accord. Dans ce cas-là, je pense que l'on va passer au du sport.
On va passer à Léo Dagan, ouais.
Bon, quand l'équipe aura fini par éteindre leur téléphone, sinon je vais les confisquer et je ne veux plus en entendre parler. Vous commencez à me les briser, on est à l'antenne, on est en direct, on est sur Radio FMR, il est 12h52 et on est écouté, bordel de Dieu! Il y a plein de gens qui nous retrouvent sur le podcast de l'émission. Vous nous retrouvez aussi sur le site internet de la radio, www.radio-fmr.net. Et là, vous allez sur le mini-site de l'émission et vous pouvez commenter, rajouter les commentaires et tout le reste. Et on tient à remercier d'ailleurs les personnes qui ont fait la bande-annonce de l'émission. Une bande-annonce en vidéo. Donc, bien évidemment, Thomas derrière qui l'a réalisé. Et Thomas.
Nils à la 3D et Dotchol à la musique.
Voilà.
Vous pouvez récupérer ça sur Dailymotion et vous tapez
Trailer
Kaamelott.
Vous allez sur le site de la radio. Ah oui, radio-fmr.net, c'est sur les brefs, c'est à droite. Donc, voilà. Et là-dessus, il y a aussi le lien vers le mini-site de l'émission. Allez, celle-là, je la dédicace à ma loute parce que depuis qu'elle a découvert la série sur CinéFX, elle en est un fan inconditionnel. She's a malicious, handsome, delicious, superstitious, superstitious, random woman. I'm the woman, only woman, only woman. You just rewind, we'll just be fine, we'll just be fine, you just be mine. You just rewind, you just be fine, you just be mine, you just be mine. I'm Alors pour les sceptiques, je le fais à la Hardisson, voilà, ah, c'est l'album ouais. Blowback, et c'est le morceau, c'est Wonder Woman, voilà, et c'est avec la reprise du thème musical de Wonder Woman, dont on a vu hier qu'ils ont sorti le coffret de la première saison. Oubliez les suivantes, mais déjà la première, elle est assez hypnotisante. C'est comment elle fait pour se recoiffer pendant qu'elle tourne et en même temps accrocher son bustier. Je peux vous dire qu'il y en a une qui est complètement scotchée à ça. C'est uniquement pour voir quand son bustier va se décrocher, tu vois. Non, je suis mauvaise langue.
Bon, ben on va parler d'un autre genre d'icône hein, qui ravisse également les filles et les gays, enfin de plus en plus d'ailleurs, oh, c'est les footballeurs.
Bon, d'accord, ok. Bon, ben moi je pars, hein, je quitte l'antenne, et laissez-vous, hein, moi je vais vous démerder. Il est 10h56, on va déborder.
Ouais, mais pas que.
Et à 13h, c'est du sport, ça tombe bien.
Bon, on va parler un peu de téléfoot parce que cette semaine il y a quand même eu un événement majeur dans la vie de téléfoot, dans la vie du football à la télé et des rapports de la télé avec le monde du football, vu que eh bien, c'était la redistribution de certains contrats, dont le contrat concernant la tranche horaire dominicale du magazine consacré à la Ligue 1 et à la Ligue 2. Et donc, il fallait qu'il y ait un nouveau contrat entre une chaîne de télé et la Ligue de football professionnel qui vend donc ses droits. On se rappelle des fameux 600 millions accordés à Canal Plus pour la diffusion là, hein, tu te rappelles hein.
Oui.
Tout le monde avait rigolé, mais on rigole encore. Là, c'est un petit peu plus léger quand même hein, parce que ça concerne uniquement Téléfoot. Et là, ben depuis jeudi dernier, c'est officiel. C'est la fin de Téléfoot. Il n'y aura plus de Téléfoot sur TF1. Non, ah bon, non. Pas tout à fait. Pas
ah,
tout
je vais
à
pouvoir
fait.
Dormir le dimanche matin. Alors,
Attends. En effet, il faut dire que France 2 a raflé les droits de diffusion donc du magazine dominical qui suit donc la journée de championnat de Ligue 1 et de Ligue 2, et donc le droit de diffuser de larges extraits de toutes les rencontres du championnat qui concernent la journée du championnat. Ça c'était donc l'apanage et l'exclusivité de TF1 dans le magazine Téléfoot avec l'excellent Thierry Gilardi. T'as vu, j'ai pas rigolé.
C'est un oui, exploit.
Mais on a perçu quand même
c'est un exploit.
Second degré.
Alors, comment ça se passait? En effet, France 2 a proposé 24,5 millions d'euros. loin des 19 millions que TF1 avait payé pour Téléfoot jusqu'à maintenant et des 14,1 millions que TF1 prévoyait de donner. Genre, allez, bon, on te file du fric, mais un petit peu à la baisse quand même, parce que bon, faut pas déconner et tout. France 2, ils se sont dit, allez, vas-y, on fonce,
allez,
on
vas-y,
y va,
on y va,
à fond les manettes. Et donc, il y aura un magazine consacré à la Ligue 1 et la Ligue 2 sur France 2 à partir du 29 juillet prochain. Magazine diffusé en deux parties, à mon avis, on va faire la Ligue 1 en première partie en une heure et la deuxième partie. Ouais, parce qu'il y a de la pub. Alors ça va se passer le dimanche, bien entendu, hein, de 12h à 13h pour la première partie, et ensuite de 13h15 à 13h35 pour la deuxième partie. Donc la première partie ça va être Ligue 1, à mon avis, la deuxième partie ça va être Ligue 2. Alors ben je vois à Tamou que c'est pas gagné du tout. De plus, le titre provisoire, hein, c'est France 2 Foot avec le 2, comme dans Foot de rue, c'est-à-dire le 2, le chiffre 2, tu vois quoi. Mais parallèlement à ça, eh bien TF1 n'a pas dit son dernier mot par la voix de son excellent directeur des sports Charles Villeneuve. Thomas est effondré en face de moi.
C'est de l'humour, hein, je vous rassure, chers amis auditeurs.
TF1 continue Téléfoot, qui est en fait une marque déposée, c'est-à-dire France 2 n'aurait pas pu reprendre Téléfoot, dire voilà, on a notre émission s'appelle Téléfoot et tout, avec d'autres animateurs là. Négatif, hein, c'est une marque déposée, donc ils peuvent pas. Et ils vont la reprendre au même horaire, hein, c'est-à-dire 10h45, 10h50, pendant la messe, quoi. Et là, les sujets sont un petit peu différents. Alors bon, je sais pas si t'as vu les derniers Téléfoot, enfin bon, c'est une tendance qui dure depuis maintenant 2, 3, 4 ans.
Plus du reportage.
De la mise en image à fond les manettes avec des espèces de, tu sais, de bande-annonce et tout. C'est les rois de la bande-annonce, de toute façon. Hein.
Oui, là-dessus, ils sont très forts.
C'est très fort, là.
Ouais,
très fort.
Vous allez voir.
Ouais.
Un match de Ligue 1, 0-0.
On les appelle d'ailleurs les trailermen. Alors donc ça va concerner surtout l'équipe de France, les stars françaises à l'étranger, puisqu'ils n'ont pas le droit de diffuser les trop d'images, on va dire, venant du championnat de France, hein, par effet de cause, la Ligue des Champions, etc. Voilà.
Et la Ligue des Champions, ils ont le droit de la diffuser.
Bien sûr.
Il est en contrat international aussi.
Absolument, oui. Donc, parce que là, il s'agit de contrats passés avec l'UEFA et avec la FIFA, donc ça n'a rien à voir.
Bon, je resterai sur Téléfoot, voilà.
de toute façon, les horaires ne sont pas les mêmes. Tu peux très bien basculer de Téléfoot à...
Oui, mais il faut non, mais être...
Non, mais il faut qu'il se rapproche du micro.
Oui, sauf que...
Je fais ce que je peux.
Ben, redis ce que tu disais, JB.
Je disais que tu pourras très bien passer de Téléfoot
pour basculer ensuite à France 2 Foot.
Oui, mais quand tu as ta copine avec toi, il vaut mieux essayer de négocier.
Il vaut mieux que tout ouais. soit dans une seule émission de voilà, foot.
Il vaut mieux limiter.
Déjà que je regarde Téléfoot et Stade 2. Alors là.
Non, attends, JB, pour te mettre dans l'idée, autant moi, tu vois, quand je. Le foot, je ne peux pas. Hein, oui. Et voilà, et je comprends, mais autant moi, quand je me regarde une émission de politique, il faut que je ne vois qu'une émission de politique, sinon après ça commence à râler.
Je te vois très mal regarder une seule émission politique.
Oui, c'est ça le problème.
Allez, balance la musique. Balance la musique. Et il était pas prêt, tu vois, en plus, il était même pas prêt, quoi.
Oh, je savais, je croyais que vous alliez encore en parler pendant une demi-heure.
On va pas en parler pendant une demi-heure, c'était les foot, quoi.
Et puis il y a du sport après.
Ah ouais.
T'as oublié de dire depuis quand ça existe.
Ah.
Ah.
Alors faut deviner ce que c'est. C'est quoi?
Oh non, non.
C'est connu, ça.
Retour aux années 70, mon gars. L'année 73.
Ouais, c'est mon année.
Ah bah t'es vachement content.
Hein. T'es vieux.
Je suis content pour toi, tu vois.
Mais j'assume. Mais 1973. You better not go, you never know what you'll find.
Allez, c'est, ça c'est Sweet, les rois du glam rock. Il n'y a pas eu meilleur qu'eux, de toute façon. Plateforme. Ouais, ouais, Sweet. C'est Sweet.
C'est Sweet, d'accord. Ouais, ouais, c'est Sweet,
ouais,
oui.
Ouais. Encore meilleur que T-Rex au niveau glam rock. Des tubes imparables, dont celui-là, Blockbuster. D'autres, Ballroom Blitz, vachement plus connu. Et même un truc pompier qu'ils ont fait vers la fin de leur carrière, vers les années 77-78, quand il y avait un virage certain à opérer dans la musique, because il y en avait d'autres qui arrivaient. Et c'était Love Like Oxygen. Mais alors là, bon, je vais quand même pas vous le passer parce que bon, faut quand même pas déconner. Et tout ça pour illustrer, eh bien, Life on Mars, cette excellente série que nous a déniché 13ème rue, hein, cette série anglaise, dont le pitch est vachement simple et pourrait paraître, et j'en ai parlé la semaine dernière, peut être vachement casse-gueule, en fait, puisqu'il s'agit plus ou moins de voyage dans le temps. Un détective, à l'heure actuelle, se fait renverser par une bagnole alors qu'il a la poursuite d'un serial killer qui a kidnappé sa petite amie. Et choc, coma, et tout le bordel, sort du coma et se retrouve en 1973. Dans un commissariat, il est flic également et tout. Il a pas sa place, il n'est plus qu'inspecteur principal, mais il est sous les ordres d'un patron, mais il doit opérer avec les méthodes. Alors lui ne sait pas ce qui lui est arrivé, il sait pas s'il est là par rapport à un voyage dans le temps, il sait pas si c'est une mystification genre le prisonnier, tu vois, enfin tout le monde se fout de sa gueule et tout, mais enfin bon c'est un gigantesque coup monté. Il sait pas si c'est les effets du coma, s'il est dans le coma et puis qu'il est en train de se balader. Mais il doit faire avec, donc s'accommoder plus ou moins de sa nouvelle vie. Et donc, ce qui est vachement agréable dans cette série, c'est que si dans le premier épisode, l'épisode pilote, on peut se dire c'est casse-gueule, où vont-ils en venir, on voit pas très bien où ils veulent en venir, ça peut devenir n'importe quoi. Au cours des deux épisodes qui suivent, hein, le numéro 2, numéro 3, puis numéro 4, hein, donc déjà diffusé, ben on se rend compte que ça tient vachement bien la route, parce que eh bien, il y a quelques artifices scénaristiques, tel que le recours à une personne qui veut être très proche, hein, en l'occurrence bien une petite fliquette qui va devenir la confidente et qui va accueillir tout ce que dit Sam Tyler, hein, le héros d'histoire, qui lui dit oui, je viens de 2006 et tout, et elle qui dit oui, bien sûr et tout, tape sur l'épaule et tout, mais oui, je te crois et tout, vas-y, mais qui l'aide un petit peu à passer un petit peu le cap. Et les trouvailles qui sont absolument géniales, hein, c'est rappeler, parce que l'histoire se place dans un endroit bien fixe, dans une ville bien déterminée, Manchester en l'occurrence. Ça permet justement de voir Sam Tyler qui va aller à la recherche de son enfance. Il va tomber sur sa propre mère et il va même tomber sur lui enfant. Enfin, il va pas le voir, mais il va deviner dans la même pièce. Il est malade, les oreillons, tu peux pas le voir et tout. Enfin bon, c'est vraiment un truc assez intéressant. Hein. Et tout cela à travers des enquêtes, hein, qui sont menées donc avec son équipe de flics, avec ses flics complètement corrompus. Hein, c'est les années 70, donc ça allait très très mal dans la police. On a tiré d'excellents films britanniques d'ailleurs à l'époque, hein, de ces histoires avec Michael Caine et tout ça. Ça s'appelle Life on Mars, c'est excellent, c'est très très bon. Donc ça passe sur 13e rue, de séance de rattrapage, c'est le dimanche soir à 22h50 avec deux épisodes corruption et le pari. Et le mardi, donc c'est la diffusion des épisodes inédits à 20h50 avec Rouge un jour, Rouge toujours, normal, hein, Manchester. Et le deuxième qui s'appelle Compte à rebours, à suivre, vraiment ça vaut le coup. Il n'est pas nécessaire.
C'est ça que j'avais pas compris. C'est une série anglaise.
C'est une série anglaise. Et ce qui est très intéressant aussi, hein, c'est que bon bah on est bercé par la musique des années 70. Donc Sweet en l'occurrence, on peut écouter Uriah Heep, David Bowie bien entendu. Enfin bon, avec Life on Mars donc qui donne son titre uniquement au générique et qu'on entend dans le premier épisode pilote. Il y a eu un morceau qui est passé de Bowie aussi, Gin Genie, que je me demande s'il n'est pas postérieur à 73 d'ailleurs. Il y a une petite erreur, un petit anachronisme, enfin bon, c'est à vérifier quand même. Mais enfin, c'est quand même une excellente série, hein, vachement bien, très très agréable à suivre, avec un ton une image un petit peu particulière, un petit grain un petit peu spécial comme ça, qui est vraiment vraiment pas mal, qui détache un petit peu la série du lot, quoi. Et ça, c'est vraiment très très bien. Life on Mars, donc c'est sur 13e rue, demain soir à 22h50 ou mardi à 20h50. Sinon, back to the grosse classique, avec un soap qui est l'un des meilleurs des années 80, sinon le meilleur, hein, Knots Landing, à savoir Côte Ouest, qui est déjà un dérivé, en fait, un dérivé créé par par David Jacobs, qui avait déjà créé, bien entendu, Dallas, bien entendu, qui a également créé aussi Enquête Privée. Ça a moins bien marché, ça a duré que 15 épisodes avec Lee Horsley, c'est le mec à la moustache et tout. Oui, et George Clooney.
C'est Matt Houston.
Matt Houston.
j'ai une blague d'ailleurs.
Quel est le Côte Ouest en fait. Qui est, l'aventure au départ de. C'est l'histoire surtout des relations entre gens, des relations entre couples, hein, qui est très très bien décrite dans ce soap, qui a quand même duré 15 ans, hein, diffusé par la CBS de 79 à 93. 344 épisodes de 45 minutes. On suit le couple Ted Shackelford et John Monarch, c'est-à-dire Gary et Valen Ewing, qui sont en fait les parents de Lucy. Tu sais, Lucy, la blonde, la chaudasse qui se fait tirer par tout ce qui bouge dans la glace. Ouais, non, tu vois pas. Ok, c'est pas grave.
Sortez couverts.
Et hein. Également les histoires d'autres couples, hein, qui l'histoire de voisins, parce que Knots Landing en fait est l'endroit où ils habitent, hein, sur la côte ouest. Donna Mills et William Devane. Il y a également des grands noms de la télé avec John Pleshette, Brian Austin Green qu'on a retrouvé après dans
Beverly.
Bien sûr, Alec Baldwin, parce que quand il y a un truc comme ça avec beaucoup de monde, il faut qu'il y ait un Baldwin, donc on en trouve toujours un qui est disponible. C'est pratique. Terry Austin également, Nicolette Sheridan. Nicolette Sheridan, oui, bien sûr, hein, life, Michel, ouais. Phillips, Bruce Greenwood, et des apparitions célèbres telles que Ava Gardner, Halle Berry dans ses premières apparitions à la télévision. Tout ça dans Côte Ouest, qui est diffusé. Si j'en parle, c'est parce que, eh bien, on diffuse l'intégrale et le début, c'est à partir de lundi sur Fox Life à 9h35 du matin, un horaire idéal pour regarder Côte Ouest. il faut pas bosser de la semaine, c'est sûr. Sinon, la grosse nouveauté, on l'attendait tellement, celle-là, que on s'est dit on n'a qu'à passer, et puis bon, peut-être qu'on regardera. Hein. Ça a carrément dégoûté au bout d'un moment. C'est la 6e et dernière saison des Sopranos qui débarque. Enfin.
C'est une saison et demie.
Sur Canal Jimmy, c'est une saison et demie, on va dire. Le format est un petit peu spécial. Les précédentes saisons faisaient 8-12 épisodes par saison. Et là, vu la complexité de l'histoire et vu le fait que David Chase, le créateur et scénariste principal de la série Les Sopranos, a envie de finaliser, de terminer cette histoire, mais de faire une vraie fin, pas comme les fins avortées qu'on fait généralement dans les séries, parce que c'est un problème de budget, parce qu'on ne conduit pas d'une année à l'autre, ou tout simplement parce qu'on arrête en milieu de saison parce que c'est trop pourri, qu'il n'y a pas assez d'audience. Là, il a envie de faire une vraie fin, un vrai truc, une œuvre complète. Et donc la saison 6 va être coupée en deux, une première partie qui a déjà été diffusée aux États-Unis de 12 épisodes, puis une deuxième partie de 8 épisodes qui n'a pas encore été diffusée aux États-Unis, qui sera diffusée seulement le mois prochain, à partir du mois prochain aux États-Unis. Et donc nous, ce qu'on va
Mais ils ont mis leur temps encore une fois.
Oui, non mais c'est aussi dû au fait qu'il y a eu quelques problèmes de production
avec les auteurs, avec les acteurs.
Les acteurs pas disponibles, le fils aîné soprano qui a fait de la prison, enfin bon, pas dans la série mais en vrai, les emplois du temps un petit peu surchargés des différents différents acteurs, Eddie Falco, Gandolfini et toute la bande. Donc ça l'a foutu un petit peu mal. Ils ont mis vachement de temps. Et c'est pour cela que Canal Jimmy va nous diffuser bien les 12 premiers épisodes de la saison 6. Ça commence jeudi prochain à partir de 20h45 avec la fin de l'épisode final de la saison 5 qui s'appelle Respect, avec l'image finale où tu vois Tony qui part dans la neige comme ça alors que le FBI a réussi à capturer Johnny Sack. Ils étaient venus pour dans la maison que eux seuls connaissent pour discuter du fait de savoir comment on allait s'arranger à propos de Tony Blundetto, tu sais, Steve Buscemi quoi, qui s'est fait dégommer parce qu'il foutait vraiment trop la merde quoi. Et là ben comme le FBI était au courant hein, ben, vu que il y en a une qui balance pas mal depuis pas mal de temps quoi. Et ben ça la fout un peu mal. Donc le premier épisode de la saison 6 s'appelle, tiens comme c'est bizarre, retraite anticipée, et le deuxième s'appelle double identité. Bah ben, ça promet. Alors donc c'est jeudi prochain sur Canal Jimmy à partir de 20h45. Sinon des rediffs encore, il y en a pas mal avec Andromeda, c'est pas de la rediff mais c'est de l'inédit sur Sci-Fi à partir de mardi 17h30, la saison 4 inédite donc en France, avec bien sûr Kevin Sorbo, ouais, magnifique
ouais, Hercule,
qui est également Hercule, qui est diffusé en ce moment sur NRJ 12. Il y a le retour dans la saison 4 du Patriarche interprété par Michael Ironside et de Michael Shanks l'archange Gabriel qui joue également dans Stargate bien sûr, et de Nick Lee qui est partout, je le dis.
Qui ?
Krychek.
Ah, oui, Nicolas Lee, ouais.
Voilà. Sinon, Canal+ fait dans l'inédit, et là, c'est du haut de gamme anglais, comme d'habitude, avec la dernière enquête, de l'inspecteur principal, Jane Tennyson. Je parlais, bien entendu, de Prime Suspect, suspect numéro 1, Hélène Mirren, donc, qui a tourné ce dernier épisode en deux parties, qui s'appelle L'acte final, dont la première partie sera diffusée vendredi prochain sur Canal+ à partir de 20h50. C'est du tout neuf, hein, c'est de 2006, de l'année dernière, réalisé par Philippe Martin. Donc la deuxième partie sera diffusée le 12 avril prochain. Sinon, il y a également une performance assez remarquable qu'a réussi à réaliser Canal+. Et c'est simplement pour dire que, et pour prouver que quand les chaînes veulent faire un truc et on a assez de couilles pour le faire, techniquement c'est faisable, il n'y a pas de problème. Canal+ qui va diffuser The Shield, la saison 6 inédite, tout de suite dans la foulée après la saison 5 qu'ils sont en train de diffuser, hein, inédite, et ce 48 heures après la diffusion États-Unis US sur FX. C'est-à-dire que bon, bah, deux jours après la première diffusion aux États-Unis, bah, une chaîne française diffuse la même saison.
C'est énorme. Hein,
ça, c'est énorme.
C'est doublé. C'est doublé ou c'est sous-titré dans ce cas-là?
Bah, doublé, sous-titré, ouais.
Ah ouais.
Ouais, non, mais attends, de toute façon, les produits sont préparé en amont hein, de diffusion, donc de ce côté-là pas trop de problème. Alors donc c'est jeudi prochain sur Canal+ à partir de 20h50. Alors à 20h50 le final de la saison 5 qui s'appelle Adieu, et parce que bon Lemonade a vachement de problèmes, c'est un des mecs de la Strike Team, et bon il a trop de problèmes et donc il va être obligé de se barrer des États-Unis. Et dans le premier épisode de la saison 6, donc le pilote de la saison 6 qui s'appelle On the Jones, ben on verra l'apparition de Forrest Whitaker dans The Shield, donc sur Canal+ jeudi prochain.
Je crois qu'on voit déjà Forrest Whitaker dans la saison 5, puisque c'est le mec du
dans le micro, dans le micro.
C'est le mec de la police des polices qui vient faire chier.
Là maintenant, là dans la saison 6, il attaque Vic Maquette direct, tu vois.
D'accord.
Quoi. Pas par le biais de ses acolytes, quoi.
D'accord.
C'est direct, quoi, tu vois.
Ça a l'air très sympathique.
Ah ouais, ouais. Sinon, je tiens quand même à saluer là aussi. C'est pas une performance, mais enfin bon, c'est vraiment un excellent choix de programmation de la part de France 3 qui, dimanche soir, nous habitue à des séries un petit peu plus soporifiques, on va dire, genre Louis la Brocante, qui marche quand même vachement bien, hein, c'est une des meilleures audiences, mais bon, ou Derrick, ou des trucs comme ça, on va dire, bon.
Tu serais en train de comparer Louis la Brocante avec Derrick?
Mais par contre. Le fait de diffuser une série allemande dont j'ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça, quand elle avait été diffusée sur 13ème rue, qui s'appelle Unsolved, hein, qui est un espèce de je confonds avec la série qui parle d'affaires classées, qui sont Cold Squad, voilà,
Cold
quoi.
Squad,
donc un Cold Squad à l'allemande, hein, mais très très bien foutu, avec des interprétations assez remarquables de Thomas Sarbacher dans le rôle du commissaire Matthias Steiner, et de Katharina Abt, hein, qui est mignonne, hein, bien qu'elle soit blonde, elle est pas mal, vraiment, franchement, quoi, qui interprète le rôle de Julia Gerling, où on se demande toujours, ben, est-ce qu'ils vont enfin y aller, les deux? Merde, y en a marre, quoi. Bon, d'accord, il y a vachement de différence d'âge, mais quand même, quoi. Ça le ferait bien, quoi, tu vois. En tout cas, c'est une excellente série, hein. Alors, c'est pareil, hein. Ils dénichent des affaires non classées qui remontent à des années pas possibles, 17 ans, 20 ans, 30 ans et tout, quoi. Et, ils se démerdent toujours assez bien. C'est filmé dans les environs de Cologne, hein. C'est censé se situer, se passer à Cologne. Et là, ben, France 3 diffuse quand même des épisodes assez récents, car il s'agit d'épisodes de l'année 2004, avec deux épisodes demain soir sur France 3 à 20h50, Le Spectre des Bovins et Le Bonheur par Procuration. Sinon, au chapitre rediff, il y a également la rediff de Rocking South sur NRJ 12 à partir de demain soir 20h50, dont le pilote. Alors, si vous ça vous intéresse pas trop, regardez juste l'épisode pilote, parce qu'il pète à fond les manettes. Il y a une fusillade au début, c'est génial, c'est excellent. Ça a été initié par Steven Bochco au départ, qui était en pleine réussite du fait de NYPD Blue, et qui s'est dit, on va explorer les flics du rez-de-chaussée, on va parler du quotidien des flics du rez-de-chaussée par rapport aux flics du premier étage dans NYPD Blue, et c'est-à-dire les flics en uniforme. Et donc c'est de cela dont parle Blocky Sauce, avec des acteurs qu'on a vu après dans d'autres séries, direct Dylan Walsh qu'on voit dans Nip Tuck, Gary Bassabara qu'on a eu dans Bombtown, Titus Welliware, Christopher Meloni également, un rôle d'un méchant vraiment très très méchant, et qui est vraiment très bon dans cette série. Elle n'a pas duré longtemps, elle a duré une saison, puis elle s'est fait virer, mais enfin c'est un petit peu dommage, parce que bon, c'était une série assez intéressante. On termine avec une petite séquence, c'est la séquence que j'ai pas réussi à terminer, mais enfin bon, tant pis, hein, c'est pas grave, comme on est déjà assez à la bourre et tout. C'est spécial soirée avec des gros seins.
C'est ça que tu disais, que tu l'as préparé avec un soin particulier.
Et ça commence demain soir. Il y en aura pas beaucoup, mais bon, ouais, c'est quand même pas mal, quoi. Demain soir, avec un gros classique qui a un petit peu lancé la mode, on va dire, hein. C'est diffusé par Arte demain soir à 1h30. C'est
Russ Meyer.
Ouais. Et t'as le morceau.
Excusez-moi, et je me suis trompé d'acteur.
Et en plus, là, tu peux passer la bande originale que je t'ai calée, là. Faster, Pussycat, Kill Kill. You want to end up giving your all. Let
me call, Pussycat is living reckless. Là, on voit tout de suite Thomas en train de prendre des notes à ce sujet.
Alors là, alors. Russ. It's that she doesn't say. What's wrong from right? She's running fast and free, child of the night. In her life there'll be no time for love. You'll never take her, make up your mind. You will find Pussycat, she's living reckless. Pussycat, she's riding high. If you think that you can tame her, well, just you try. Yeah, just you try. Come on and try. Yeah, come on and try. Yeah, come on and try.
Non, en honneur à mon mentor absolu à cette antenne, Gilda, même s'il est allé sur une autre radio, il me laisserait pas couper ça. Attends.
Ouais, si quand même.
Déjà il me demanderait l'adresse de JB pour les triper, pour avoir osé parler dessus.
Non, mais si c'est moi, ça va, je pense, quoi. Ça passera quand même. Alors, c'est le film de 66, donc en noir et blanc. Et là, bon, c'est le fondement, on va dire presque le fondement. Enfin bon, là, ouais, si possible. C'est le fondement d'un genre, quoi, tu vois, avec l'apparition de Toura Salana, Suzanne Bernard, Laurie Williams, enfin c'est un des films majeurs de toute façon de Russ Meyer, que tu vois et tu revois avec toujours beaucoup de plaisir, sans problème.
Oui, d'intérêt artistique, bien sûr.
Non mais attends, ça reste très soft quand même. Bon, pour nous maintenant, c'est hyper soft de toute façon. Faut dire que Russ Meyer, par la suite, avec toute sa série de Vixen, a un petit peu exploré d'autres aspects, on va dire, un petit peu plus porno, on va dire, sans tomber vraiment dans le porno, hein, d'ailleurs, hein, c'est à souligner. Mais là, bon, bah, ça reste très très soft, mais c'est quand même vachement c'est chaud quand même, quoi. Donc Faster Pussycat Kill Kill demain soir sur Arte. Sinon lundi sur Paris Première à partir de 22h55, c'est également gros sein de toute façon dans Nip Tuck, parce que là, à part les seins de Romain Mafia, je pense tous les autres, ce sont des seins qui sont refaits, hein. Et peut-être ceux de Jolie Richardson aussi, quoi. Ouais, non, mais ça parle de prothèses à longueur d'épisodes, je veux dire, Nip Tuck. Avec quand même dans les deux épisodes de lundi prochain, c'est la saison 4, hein, donc inédite, le divin enfant et à chacun sa marionnette, Jackie Bisset qui revient et Alanis Morissette. Ouais, super.
Refait ou non?
Bah justement, on va voir quoi. On va voir. On va voir ce qui se fait refaire. Et mardi, alors j'ai été interrompu justement quoi, quand j'étais en train de faire cette rubrique et tout, je me suis rendu compte qu'il était un petit peu tard quoi. Oh zut, il est déjà midi. Bon, j'arrête, je fonce. Mardi sur TP Star, une soirée. Alors là, c'est bon, du bon goût quoi, quand même. Spécial Monica Bellucci.
Oh là là, ah. Tu t'es fait interrompre en un. Putain, c'est pas possible.
Attends, voir les films qui vont être.
Attends,
aussi.
Parce que là, c'est quand même classieux. Hein. TP Star, attends, hein, c'est le fleuron quand même.
Oula, je m'attends.
Vendu
à 21h avec la première diffusion à la télé hein, de Combien tu m'aimes, de Blier, le billet de 2005 hein,
une merde
avec Campan, oui. Debardieu et Daroussin. Ouais, mais il y a Monica Bellucci,
oui, je te l'accorde,
qui joue le rôle d'une pute en plus.
C'est quand même une merde,
tu vois quoi, c'est à dire oui. Bon, il y a beaucoup de mecs bon et à 22h40 un truc un petit peu plus concret on va dire hein, au niveau de l'histoire, un film italien de Gabriele Marcino de 2003 qui s'appelle Souviens-toi de moi avec Laura Morante. Alors tu vois là il y en a deux carrément, il n'y a pas qu'une, il y en a deux. Et sinon en même temps sur Teva, eh bien pour les plus vieux ça leur rappellera de vieux souvenirs, à 21h Angélique Marquise des Anges de Bernard Bordeaux de 1964 avec Michel Mercier, Robert Hossein, Jean Rochefort, Giuliano Gemma, tu vois, il y en a pour tous les goûts en plus hein. Et j'allais pas laisser passer ça quand même, mais un grand coup de chapeau quand même à France 4 qui commence à vraiment montrer bah que c'est une chaîne qui a envie de faire des paris un petit peu audacieux comme ça de temps en temps, de faire des coups pour... histoire de voir si ça marche quoi.
Et c'est vraiment coup par coup. Par exemple,
non, mais c'est bien.
La diffusion VO sous-titrée par hasard de Doctor Who, passée en tout bout de truc. Les concerts que l'on passe un peu au hasard, au petit bonheur, à la chance des fois sans l'annoncer. Mais...
Il passe des émissions coup de cœur, il passe des choses qui n'auraient pas été permises sur des chaînes d'un plus grand public. Là, le Doctor Who en l'occurrence, ou effectivement,
ce là, demain soir, quand même, une soirée spéciale Johnito, avec deux films de Johnito à la suite, mon gars, comme ça, sur France 4. Thomas il s'est
sage,
sur sa chaise.
Ah, j'ai acheté la box, c'est pas encore.
Non, attends, reste assis.
Moi, je dis respect.
Avec, à 20h40, Running Out of Time, le 99, avec Andy Lau, Wisely.
Oui, ça, je l'ai.
Et un peu plus tard, j'ai même pas noté l'heure, tu vois, mais juste après, hein, donc Full Time Killer avec encore son acteur fétiche Andy Lau, et à Simon Yam, Kelly Yin.
Très bon Johnny Toe.
Full Time Killer qui a d'ailleurs été co-réalisé avec Waka Faye. Il faut le préciser quand même. Donc tout ça, c'est demain soir sur France 4.
Merci.
Allez, on te contente. Les clés de chez moi, il y a la box.
Voilà, après du foot et dessin, donc voilà ce qui conclut une émission qui pourtant était d'un très très haut niveau culturel. Et je quand même mettrai ma main au feu que vous l'avez fait un peu exprès. Néanmoins, si vous voulez en savoir un peu plus sur Camelot, si vous êtes intéressé par l'histoire, par les antiquités et la brocante, sachez que demain sous la grenade, il y aura donc une foire brocante, c'est gratuit.
N'importe quoi.
C'est n'importe quoi cette émission, je vais la placer celle-là. Thomas, peux-tu nous faire le résumé pour ceux qui ont pris l'émission en cours de route, s'il te plaît ?
Eh bien oui, si vous avez pris l'émission en cours de route, surtout vers la fin, vous ne saviez pas que c'était du spécial Camelot. JB, t'es encore parmi nous, tu veux récupérer ta place dans l'émission, toi ou...
J'aimerais bien.
D'accord. De la BD historique, une grosse page football et une alerte cul pour la spéciale grosse sein.
D'accord.
Et une rubrique Monica Bellucci qui a été tronquée.
Nom d'un Excalibur souvenir. Ils ont manqué tout ça. Heureusement, nos chers amis auditeurs sur le tard peuvent réécouter l'intégralité de cette émission ainsi que toutes les autres émissions avec les chroniques mais aussi vos commentaires. N'hésitez pas. Vous allez sur le site internet de la radio www.radio-fmr.net ou sinon vous prenez Google, vous tapez supplément weekend fmr mp3. Vous pouvez les télécharger et tout. C'est libre, c'est gratuit. Vous pouvez vous abonner. C'est nous qui offrons parce que voilà, c'est petit bonheur. Hein. La suite des programmes sur Radio FMR, 15h Arma Farai, 17h Big Bang, 18h Vide Ordure, 19h Rapio, 20h La Cetero Expérience, 21h30, 9 Love, mais de suite c'est du sport. Nous on se retrouve la semaine prochaine, Thomas n'est pas là, mais je serai là, fidèle au poste.
Tu parleras manga tout seul.
Non, il y aura du sport. Lui, au moins, il est sympa. Même heure, même fréquence sur 89.1 MHz. Donc, avec une interview de Keiko Ichiguchi et de Atsushi Kaneko. Attends, tu savais même pas qu'il a... T'as même pas vu le film Rampo Noir qu'il a réalisé.
Et toi, tu l'as vu?
Non, mais il est sorti en France quand même, mince. On le savait pas, on s'est retrouvés comme des cons.
Ouais, alors en fait, Rampo Noir, je me suis documenté un peu. Ils en parlent uniquement dans cinéasie.com. Et en fait, il s'agit d'une compile sur autour de l'acteur Tadanobu Asano. Et je suis même pas sûr qu'il soit sorti partout en France en salle. Et déjà en DVD, c'est quand même une sortie assez
technique.
Oui, voilà. Voilà. Donc, on est excusable. Hein.
Oui, bon, merde. Allez, vous en saurez plus la semaine prochaine. Supplément week-end. Vous quitte et vous souhaite ciao, bye bye. Et vous dit, ben, écrivez-nous sur le site de l'émission, ça nous fera beaucoup plaisir.
Postez des commentaires.
Voilà, et puis peut-être qu'un jour, on en fera une avec des auditeurs. Vous serez tous conviés. Voilà. Allez, ciao, bye, see you. C'est du sport qui me le fait remarquer. Voilà ce qu'il fallait que je mette en terminaison d'émission.
Bon bah je suis désolé, mais on me le demande, mais maintenant, barrez-vous.
Ah, c'était la belle vie avant, quand t'étais aventurier, quand t'étais gardien de phare, pilote de F1, catcheur ou bien skieur alpin. Après c'était plus dur quand t'as été guerrière au pendant que tu faisais banquier avant centré puis dresseur de chameaux. Maintenant tu es chanteur et que tu gagnes pas mal ta vie, mais des fois quand vient le soir bah tu t'ennuies. Allez Bernard Lavillier, mais qu'est-ce que tu vas pouvoir faire, il te reste plus de métier à faire. Bernard Lavillier, obstétricien, ah non tu l'as fait en 80. Un jour t'as revendu la moitié de tes boucles d'oreilles, que t'avais filé des guerrieros, que t'avais aidé pour vaincre la junte militaire en place. Mais le mec qui les a achetés, bah il a pas pu repartir avec, vu qu'elles étaient bien trop lourdes, du coup bah tu les as gardées. Ça fait une anecdote super marrante à raconter. Bon peut-être nous on raconte mal, ou peut-être c'est toi qui s'est raconté. Comme quand t'étais chasseur de tigres et que tu t'es fait bouffer un bras, et que ton bras il a poussé, ouais t'es comme ça. Bernard Lavillier, mais qu'est-ce que tu vas pouvoir faire, il te reste plus de métier à faire. Bernard Lavillier, ah peut-être pilote d'hélicoptère, ah bah non tu l'as fait avant-hier. Ah là là, une avalanche en Haute-Savoie et un barrage qui vient de craquer, faut appeler Bernard Lavillier. Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, un volcan vient de se réveiller, vite appelons Bernard, il aura une idée. Et même s'il trouve pas, il nous jouera une petite chanson. Et les gens seront pas malheureux quand leur maison elles brûleront. Un pied dans une Santiago et un pied dans une tongue. Un alter dans une main, de l'autre il a écrit des poèmes. Il a écrit le Coran, le Kama Sutra, les livres de poche. Mais ça personne peut le prouver à part peut-être Bernard Lavillier. T'as déjà lu tous les bouquins, pour lire un nouveau faut que t'en écrives un. Bernard Lavillier, t'as même écrit le tape sur des bambous, mais tu sais ça, nous on s'en fout. T'es un mélange d'Indiana Jones, Léo Ferré et Garcimore, mais en moins mort. Il paraît que ton vrai nom c'était Nicaragua, et qu'après ils ont appelé le pays grâce à toi. Et si un jour t'es trop musclé et que ça devient illégal, et si un jour ils te mettent en tôle, moi je viendrai te chercher. Avec tous tes enfants, on se donnera la main et on fera une chaîne de l'amitié, ouais, tout autour de la terre. Bernard Lavillier, t'as même connu MacGyver à l'époque où t'étais coiffeur. Bernard Lavillier, t'es à moitié stéphanois et à moitié colombien, et à moitié espagnol et à moitié jamaïcain, et à moitié Shaolin et à moitié un chef indien. Bernard Lavillier, et à moitié portoricain, ça on a failli l'oublier.
Radio Éphémère 89.1 MHz avec pour changer de registre et être un petit peu tout petit peu moins rigolo, eh bien une affaire suite eh bien à la décision rendue par la Chambre sociale de la Cour d'appel de Lyon dans l'affaire SASP Olympique Lyonnais contre Olivier Bernard. En effet,